Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h44, c'est le petit déjeuner politique de Geoffroy Didier, qui est député européen LR et vice-président de la région Île-de-France.
Bonjour Geoffroy Didier.
Bonjour.
On va parler de la gestion du Covid dans un instant, aussi de la victoire de Biden. Mais avant ça, 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle. La droite d'aujourd'hui, votre famille politique, les Républicains, est-ce qu'elle est encore digne, justement, la digne héritière du gaullisme?
Je l'espère. Et 50 ans après sa mort, Charles de Gaulle, le général de Gaulle, est une leçon de politique permanente pour nous tous, parce qu'il a eu cet esprit de résistance. Il est allé lui seul raviver la flamme de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis cet esprit d'indépendance, indépendance de la France, indépendance stratégique par rapport à la concurrence mondiale, la concurrence effrénée que nous subissons. Mais le général de Gaulle n'est pas seulement une leçon de politique, il doit aussi être une leçon de modestie. Parce que tout le monde s'en réclame. Mais personne, je dis bien personne, ne lui arrive aujourd'hui à la cheville.
Ouais. Le gaullisme, c'est l'existence d'un chef incontesté. Est-ce que là aujourd'hui, et notamment dans votre famille à droite, il n'y a pas un manque, justement, à
bien sûr que si,
ouais.
Disons-nous les choses.
Ouais.
Il y a un président des Républicains, Christian Jacob, qui a été élu et qui anime les équipes, les sensibilités de la droite, mais lui-même a dit qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Et moi, j'ai toujours dit, et je suis constant là-dessus, qu'il faudra une sélection démocratique pour que nous nous trouvions un chef. Parce que si nous avons...
Sélection démocratique, c'est quoi,
lorsque nous aurons un projet,
ouais,
il faudra une primaire qui ne dit pas son nom parce que nous savons que le mot est maudit.
Ouais.
Mais moi, j'estime que nous n'avons pas à avoir peur de la démocratie. La démocratie n'est pas un gros mot. Que nous sommes en 2020, bientôt en 2021,
ouais,
et qu'il faudra un mode de sélection démocratique de la droite et du centre, et qui aille bien au-delà des Républicains, parce que nous savons qu'il existe des responsables politiques de haut rang qui ne sont plus membres des Républicains
donc,
aujourd'hui.
Finalement, c'est la même primaire que ce qu'on avait vécu il y a 4 ans. Alors, à peu
c'est
près.
À nous d'en vérifier les modalités. Je ne suis pas pour une primaire fermée, car je crois que nous n'avons pas intérêt à nous fermer et à nous replier, mais je suis aussi pour une primaire qui soit respectueuse de l'esprit militant des Républicains, c'est-à-dire qui ne laisse aucune possibilité à la gauche de venir s'inviter à cette sélection démocratique.
Oui, Valérie Pécresse, parce que là, on sait que Xavier Bertrand ne s'en cache pas vraiment, Bruno Retailleau non plus, Valérie Pécresse également.
Valérie Pécresse l'a dit hier encore dans les médias, elle est concentrée sur l'action réformatrice qu'elle mène en Île-de-France. Elle sait aujourd'hui que nous vivons une crise sanitaire, que nous subissons une crise économique, qu'il y a beaucoup d'actions publiques à mener, mais au fond, observez, elle est une force tranquille, elle est solide dans la tempête, et je pense que c'est ce qu'apprécient les Franciliens, et peut-être demain nous verrons, c'est ce qu'apprécieront les Français.
Bon, la gestion du Covid, est-ce qu'il y a un bon équilibre selon vous entre le maintien d'activité et puis la fermeture d'autres, hein? On pense bien sûr en fait aux commerçants.
Je ne fais pas partie de ceux qui viennent tous les jours à la télévision vous expliquer tout ce qu'il aurait fallu faire et donner des grandes leçons au gouvernement. J'avance dans la gestion de cette crise avec beaucoup d'humilité, car on sait bien que cette ligne de crête, cette double exigence qui est à la fois de réduire l'épidémie et de préserver l'économie est du funambulisme. Mais on le sait aussi, le gouvernement a failli à bien des égards. A failli, on s'en souvient, en ne disant pas la vérité sur les masques, a failli sur la préparation de cette deuxième vague qui paraissait pourtant inéluctable. Et je me pose la question aujourd'hui de savoir
certains
pourquoi...
disaient qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Hein, donc,
oui, et elle nous paraissait quand même inéluctable, parce qu'on sait bien que tant que nous n'aurons pas le vaccin, nous devrons jouer au yo-yo avec cette épidémie. Mais moi, ce qui me révolte aujourd'hui, c'est l'injustice. C'est l'injustice dont font preuve aujourd'hui, malheureusement, donc que subissent les petits commerçants. J'étais ce week-end à la rencontre des commerçants d'Île-de-France. J'aimerais qu'on trouve le plus vite possible, et en respectant les conditions sanitaires, des solutions pour ne pas laisser ces commerçants mourir à petit feu. Par exemple, en fixant chez les fleuristes, en fixant chez les libraires, des rendez-vous où l'on appelle et on vient seul, en respectant les conditions sanitaires, ou à deux clients par libraire. Tout cela est possible. Des solutions alternatives existent qui, je le dis bien et j'insiste là-dessus, seront respectueuses des conditions sanitaires qui doivent être évidemment impérativement respectées.
En attendant, c'est le commerce à distance qui fonctionne, qui marche, et les grandes surfaces.
Oui.
Et il y a un Black Friday cette semaine.
Mais je suis vraiment, et je demande l'interdiction de ce Black Friday, car je ne voudrais pas qu'à l'injustice s'ajoute l'indécence. Je ne voudrais pas que les marchands du web raflent la mise et profitent de cette période difficile pour tout le monde pour prendre tout ce qu'il y a à prendre au détriment de ces commerçants qui sont en train de rogner chaque semaine sur leurs économies et qui sont en train de mourir à petit feu. Je demande l'interdiction du Black Friday, car à l'injustice ne doit pas s'ajouter l'indécence.
Oui. Un mot sur les écoles. Il y a un débat sur les protocoles sanitaires. Est-ce qu'il y a eu un échec, selon vous, dans la préparation ?
Sur les écoles, je suis prudent, car la volonté du gouvernement, et je la partage, était de préserver coûte que coûte l'instruction, car on sait bien qu'évidemment les défauts d'instruction créent de profondes injustices, et je vous ai dit il y a quelques secondes que ce qui me révoltait, c'est l'injustice. Je suis totalement favorable à, évidemment, à ce que les enfants portent des masques dès l'âge de 6 ans, comme ça a été décidé, car on sait bien que les enfants asymptomatiques véhiculent le virus. Donc oui, il y a peut-être eu des défauts ici et là d'organisation, mais en tout cas, je défends l'idée que les écoles doivent continuer à fonctionner.
Oui, vous êtes député européen. Il n'y a plus de séance plénière au Parlement à Strasbourg. Vous êtes au chômage. Qu'est-ce que vous faites alors, du coup ? Comment travaillez-vous ?
Le Parlement expédie les affaires courantes.
Ouais.
Il y a des commissions, il y a des organisations, il y a des réunions en visio. Mais nous avons un problème, c'est que nous n'avons plus de débat, parce que nous ne pouvons plus aller ni à Bruxelles, ni à Strasbourg. Nous ne pouvons plus voter que par email. Nous ne pouvons plus voir nos collègues. Donc, à un moment où nous avons plus que besoin d'Europe, il y a une crise économique qui touche toute l'Europe. Il y a un plan de relance européen qui aujourd'hui patine. À un moment où c'est l'Europe entière qui est menacée par le terrorisme islamiste, on l'a vu à Vienne et on le voit malheureusement dans beaucoup de villes en France, eh bien, il serait anormal que l'Europe se mette plus ou moins au chômage technique ou à l'arrêt. Je demande donc et je propose que nous mettions en place des conditions sanitaires très strictes pour permettre, comme ça existe à l'Assemblée nationale, comme ça existe au Sénat, comme ça existe au Conseil régional d'Île-de-France, comme ça existe au Conseil de Paris et dans bien d'autres assemblées, de permettre aux députés européens d'exercer pleinement leur mission au service des peuples. On peut parfaitement trouver un équilibre entre des conditions sanitaires très strictes. Je fais des propositions. Je dis par exemple qu'avant de rentrer dans l'hémicycle, nous devions montrer un certificat de test négatif au Covid. Ça permettrait aux autres députés de se sentir protégés par l'arrivée de chacun d'eux et ça nous permettrait aussi d'exercer pleinement notre mission au service du peuple.
Oui, Geoffroy Didier, à propos d'Europe, les frontières de Schengen ne sont pas étanches face à l'immigration.
C'est tout le problème, Patrick Roger.
Oui. Alors, les quelques renforts d'Emmanuel Macron dans les Pyrénées décidés la semaine dernière, ça va changer quelque chose ou pas ? Où il faut aller beaucoup plus loin ?
D'ailleurs, vous le dites vous-même dans votre question, les quelques renforts, on a prévu, a prévu d'arriver à 10 000 gardes frontières de l'agence dite Frontex d'ici 2027. 2027. Mais vous croyez qu'on peut attendre 2027 ? Combien de morts et combien de victimes du terrorisme aurons-nous à pleurer d'ici 2027 si on ne fait rien ? Et le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est pas seulement celui de la solidarité entre nous, c'est celui de la solidité. Car il ne peut pas y avoir de libre circulation à l'intérieur des frontières, ça s'appelle l'espace Schengen, s'il n'y a pas de frontières extérieures qui soient solides, c'est-à-dire étanches. Une frontière, ça peut se traverser en toute légalité, mais une frontière, ça se respecte. Et je ne comprends pas que de telles évidences aient dû redevenir des combats politiques. Je ne comprends pas cette inertie qui existe depuis 2017. Et je ne comprends pas que ça fasse 10 ans que les politiques successives de droite et de gauche nous disent qu'il faut refonder Schengen, mais ils ne prennent jamais les mesures qui sont à la hauteur de leurs discours et de leurs paroles. Il y a un moment où ça suffit, parce qu'aujourd'hui, l'Europe est en danger et que si on veut sauver le projet européen, c'est précisément en la rendant beaucoup plus solide à ses frontières extérieures.
Oui, Trump battu, je reviens aux États-Unis. Qu'est-ce que la victoire de Biden peut changer pour la France et l'Europe dont vous parlez là à l'instant ?
C'est un pays que je connais bien, que j'apprécie, où j'ai vécu 4 ans, où j'ai étudié et travaillé. Et je voudrais que nous ne soyons pas naïfs. Nous ne soyons pas naïfs sur ce que signifie le résultat de cette élection. Donald Trump est passé de 63 millions d'électeurs en 2016 à près de 71 millions. Ça veut dire qu'il a aussi, je le constate, j'en prends acte, je ne juge de rien, aussi réussi son mandat dans le sens où, un, il a fait tout ce qu'il avait dit qu'il ferait, et deux, il a été le véhicule d'une attente de protection, et j'aimerais que ses électeurs, nous arrêtions de les moquer, de les sous-estimer et de les mépriser. Et puis, je voudrais aussi qu'on ne soit pas naïf sur ce que sera le mandat de Joe Biden. Parce que Joe Biden, certes, va progresser et va faire progresser la situation par exemple en resignant les accords de Paris sur le climat, en débloquant l'OMC, en rejoignant l'OMS, mais il va aussi chercher uniquement les intérêts des Américains.
Ouais.
Les Américains qui aujourd'hui jouent au ping-pong commercial avec la Chine et considèrent que l'Europe est en fait un supplétif. Donc, face à ce patriotisme américain que Joe Biden aura d'ailleurs bien raison de poursuivre, voire d'amplifier, il faut créer un patriotisme européen. L'Europe doit se réveiller, arrêter d'être naïve, ne pas attendre d'être à la remorque une nouvelle fois des Américains et créer une indépendance stratégique, un patriotisme européen comme il existe un patriotisme américain.
Mais est-ce qu'il faut aussi, à l'intérieur de cette Europe, un patriotisme français ?
Mais
parce que c'est tout le débat, actuellement, sur la souveraineté, on a parlé du général de Gaulle.
Mais un patriotisme français, je crois que nous le sommes tous. Vous l'êtes, Cécile de Ménibus l'est, tous ceux qui nous écoutent sont des patriotes. Pourquoi me posez-vous cette question ? Bien sûr, mais là où vous avez raison de me la poser, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui sont aujourd'hui françaises ou qui sont devenues françaises ou dont les parents étaient étrangers et qui eux-mêmes sont nés françaises et qui pourtant retournent leurs armes contre la France. Et là, c'est peut-être un constat d'échec pour nous tous, mais c'est aussi une exigence de fermeté à leur égard. Et je voudrais que là-dessus, nous ne lâchons rien. Et quand je vois, par exemple, que les mosquées salafistes ont été fermées, 10 mosquées ont été fermées alors qu'on en recense plus de 100. Lorsque je vois qu'Emmanuel Macron ne prend pas toutes les mesures nécessaires et se contente de mots et se gargarise de déclarations, je suis inquiet pour la suite et pour les menaces terroristes qui restent évidemment très fortes sur notre territoire.
Oui, question avec Geoffroy Didier, avec Cécile de Ménibus. Cécile.
Oui, je reviens sur Jean-Luc Mélenchon qui a préposé sa candidature hier contre une investiture populaire de 150 000 voix. 150 000 voix pour légitimer sa candidature au présidentiel, il n'y a pas un souci. Ça vous inspire quoi ?
L'initiative de Jean-Luc Mélenchon, je la comprends. C'est de dire, pour pouvoir être officiellement candidat, il ne faut pas uniquement l'aval d'élus, il faut aussi un aval populaire. Mmh. Et je considère que le candidat, puisqu'il s'agit désormais de ça, le candidat Mélenchon est un candidat sérieux, mais est aussi un candidat dangereux. Un candidat dangereux parce que l'extrême gauche reste dangereuse et véhicule des propositions qui ont le droit d'exister, mais que je combats parce qu'elles ne vont pas dans le sens de l'intérêt général, selon moi. Et puis un candidat dangereux, parce que souvenez-vous quand même, il a fait lors des élections présidentielles de 2017 19,6% des voix. Mmh. C'est-à-dire le même score que Jacques Chirac a fait en 1995, le même score que Jacques Chirac a fait en 2002, et pourtant il l'a été, Jacques Chirac, deux fois président de la République.
Et qu'il aurait donc pas fallu 1 million plutôt que 150 000.
Ça, c'est lui-même qui a défini ses propres règles.
Ouais.
Donc je ne vais pas en prendre acte. En revanche, pour devenir président de la République, qu'il le sache, Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas se contenter de 150 000 voix. Pour avoir sa petite assise interne, parce que manifestement il y a eu du débat quand même sur la question de la génération, c'est-à-dire sur savoir si Jean-Luc Mélenchon pouvait être une nouvelle fois candidat, mais ça appartient à la France insoumise. En revanche, s'il veut convaincre et susciter l'adhésion, il faudra effectivement qu'il réunisse des millions de voix et non seulement 150 000.
Merci Geoffroy Didier, député européen et vice-président de la région Île-de-France, était l'invité ce matin.
Merci
de Sud Radio.
Restez avec nous dans quelques instants, le journal de 8h.